Bienvenue à vous qui êtes venus chanter que la lumière brille pour nous et pour tous et toutes. Bienvenue à vous qui êtes venus vous rassembler les uns avec les autres dans la communion en Jésus-Christ. Que vous soyez en présence ou à distance, recevez dans votre vie, dans votre être, la bonne nouvelle, l'évangile qui s'est mis à courir le monde depuis des siècles. En Jésus-Christ, Dieu se lie à l'humain afin de créer ensemble la terre de justice et de paix. Cette grâce nous est donnée. Un ancien cantique chante aussi « Le Fils nous est donné, humain de chair et de sang comme nous, né d'une femme comme nous, dans une famille avec, comme dans les nôtres, des hommes et des femmes faillibles, surprenants, courageux, étranges. Ainsi, il rencontre nos propres histoires pour y faire briller la confiance et l'espérance que Dieu place en chacun et en chacune de nous. Je vous invite à prier. Pour venir chez nous, tu n'exiges pas l'étalage de tapis précieux avec des dais chamarrés pour t'éviter nos intempéries, ni des candélabres d'or pour éclairer tes pas sur nos chemins défoncés. Tu ne demandes pas des processions de serviteurs pour te faire une haie d'honneur et te protéger des foules miséreuses qui traînent toujours dans nos rues. Tu n'attends pas de nous des nuages d'encens parfumés, ni une décoration de palais pour camoufler nos malheurs et nos conflits. La voie royale que tu empruntes pour venir chez nous est notre habituelle voie humaine, sur laquelle, dans les rires et dans les larmes, nous marchons chaque jour. Cette voie que nous pavons de prières obstinées, de pardons récalcitrants, de paix fragile et d'amour toujours à renouveler. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des nombreux cantiques de ce culte de Noël, au numéro 177, « Au peuple fidèle ».
Thank you.
Nous restons debout pour la louange. Ô notre Dieu, tu te donnes à l'humanité entière, par tendresse, par passion, par amour débordant, sans rien demander, sans rien attendre et sans rien regarder de notre beauté ou de notre laideur. Comment ne pas commencer chacune de nos journées émerveillée, éperdue de reconnaissance, avec la louange en notre cœur et dans la jubilation de notre merci. Tu n'as rien à voir avec le donnant-donnant, avec l'endettement, avec le prêté et le rendu. Ton amour est répandu sur tout être, sans qu'il le mérite, sans qu'il soit obligé d'organiser une longue liste de sacrifices ou de construire des temples dorés. Tu es ainsi. Et si tu viens sur notre terre, c'est uniquement afin de t'approcher de nous, de te tenir auprès de nous pour cette communication d'amour. Ton nom est grâce. Quelle joie pour toute la terre. Alléluia. Et nous chantons encore au cantique 171, ces jours de joie. Prenez place. Nous prions encore. Notre Dieu, Toi, Dieu d'infini et d'éternité, et d'inconnu et de puissance, voici que ta parole est déposée dans notre humus, à la taille de notre humanité. La voici en notre chair, sous nos yeux, en notre corps, touchée par nos mains, en notre esprit et notre sens, entendue de nos oreilles. La voici à notre mesure, à notre faiblesse, à notre dimension et en notre temps. La chair de notre humanité, définitivement chair de ta parole. Tout ce qui blesse l'humanité la blesse. Et l'humanité vivante devient ta jubilation. Nos peines, nos guerres, nos haines, nos amours, nos désespoirs, nos allégresses, nos chutes et nos lentes remontées, nos rêves et notre mort, et nos avenirs tremblants sont à jamais la chair de ta parole. Notre Dieu, ensemencé par toi, de quoi aurions-nous peur? Amen. Au cantique 181, nous nous levons pour chanter.
Thank you.
prenez place. Avant de lire le texte des Écritures qui portera notre méditation de ce jour, je vous invite à prier. Éternel, en Jésus le Christ, tu as fait lever une grande lumière sur le monde entier et sur chacune de nos existences. Maintenant, par ton esprit, éclaire ces Écritures que nous allons lire, qu'elles deviennent semences pour nos vies, pour nos présences, pour nos actions en ce monde. Amen. Et nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La jeune fille sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Ce que l'évangéliste Matthieu raconte au sujet de la naissance de Jésus est assez surprenant, surtout quand on a en tête plus souvent le récit de Luc qui nourrit son propre récit avec la place qui manque à l'auberge, avec le nouveau-né couché dans une mangeoire, avec des bergers, avec toute l'armée céleste. Matthieu, lui, porte son attention et fait porter l'attention de ses lecteurs uniquement sur la figure de Joseph et principalement avant la naissance de Jésus. Il se contente d'ailleurs d'une laconique notation au dernier verset pour signaler cette naissance jusqu'à ce qu'elle, Marie, eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout de même plus que les évangélistes Marc et Jean, qui, eux, ne disent rien du tout au sujet de la naissance de Jésus. Ni Luc ni Matthieu ne prétendent dire quelles sont les circonstances exactes de la naissance de Jésus. Personne n'en sait rien. Luc et Matthieu n'écrivent pas de récit historique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, en rendant compte de faits, en s'attachant à rédiger une biographie de Jésus. L'un et l'autre, de même que Marc et Jean d'ailleurs, témoignent de ce qu'ils ont reçu et comprennent de Dieu et de Jésus-Christ, et de ce que cela signifie pour les croyants. Donc Matthieu met en scène Joseph, un homme de la maison de David, fiancé à une jeune fille du nom de Marie. Les fiançailles ont quasiment valeur de mariage, sauf que les fiancés ne vivent pas ensemble sous le même toit. Mais le lien est quasiment aussi fort et à respecter autant que celui du mariage. Et c'est pourquoi les fiancés peuvent déjà être appelés mariés. Mais voici que Marie est enceinte. Et Joseph n'y est pour rien. Que va-t-il faire ? Tel est le cheminement vers la naissance de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et Matthieu le suit, ce cheminement, selon une perspective dont on pourrait dire qu'elle représente un fil rouge de tout son évangile. La justice. Joseph est un homme juste. Avec Matthieu, Noël, la naissance de Jésus, la venue au monde de celui qui est reconnu comme Christ, est liée, est affaire de justice. Déjà, la justice est un thème majeur de la Bible hébraïque, le Premier Testament. Et Matthieu, qui est très enraciné dans les Écritures hébraïques, y voit à la fois une caractéristique du Dieu de Jésus-Christ, une caractéristique dans son évangile de l'activité de Jésus révélant Dieu comme le Père céleste, et puis aussi une caractéristique de l'existence croyante. Joseph est un homme juste. Cela signifie qu'il est fidèle à Dieu et respectueux de la loi de Moïse. Mais pour cette loi, Marie est considérée comme adultère. Et elle pourrait être lapidée, selon une prescription du livre du Deutéronome. Même si au 1er siècle et avant également, cette prescription de lapider les femmes adultères était entourée de tellement de conditions qu'elle n'était finalement pas appliquée. Mais il y a d'autres manières de tuer qu'avec des pierres. Il suffit de regards, de paroles, de comportement, et une jeune fille enceinte serait alors mise au banc de la société, coupable, exclue, déshonorée, indigne, et cela quelles que soient les circonstances de la conception de l'enfant, que ce soit un viol ou que ce soit une passion. Et l'enfant ainsi né subirait un sort peu enviable, né hors mariage, sans père, un bon à rien. Une telle accusation n'a d'ailleurs pas manqué d'être proférée à l'égard de Jésus dès le 1er siècle par des pharisiens soucieux de le déconsidérer. Alors voilà, il pourrait en être ainsi de Marie et de son enfant, et personne ne le reprocherait à Joseph. Certains le plaindraient d'avoir eu une telle fille pour fiancée. D'autres se moqueraient aussi, hein, vous savez comment c'est. Et peut-être bien que la réputation de Joseph serait un petit peu écornée, un temps. Mais enfin, plus tard, il pourrait à nouveau se fiancer et poursuivre cette vie tracée à l'avance. Joseph doit faire face à une situation désagréable qu'il subit, qui n'est pas sans conséquences, même pour lui. Mais voilà. Joseph est juste, c'est-à-dire qu'il ne veut pas causer de tort à Marie. Cela va être déjà bien assez compliqué et pénible pour elle. L'opprobre général, la honte et un futur déjà complètement démuni. Joseph ne veut pas en rajouter. Alors il décide de la répudier. Mais il ne veut pas donner de publicité à ce qui lui arrive, à lui, à ce qui arrive à Marie. Il veut éviter de la donner, de se donner lui-même en spectacle et de susciter trop de commentaires. Vous savez, comme chacun se permet toujours de donner son avis en y allant, bien, moi, à sa place, je ferai ceci ou je ferai cela. Et il y a là une manifestation de la justice. En ce que Joseph se préoccupe de Marie, et pas seulement de lui-même, le fiancé bafoué, mais d'elle, d'elle aussi qui pourtant n'a manifestement pas été fidèle, n'a pas respecté ni les fiançailles ni le fiancé. Être juste, ce n'est pas vouloir clamer son bon droit. Ce n'est pas vouloir réclamer un châtiment quand celui ou celle qui a fait tort se trouve dans une situation encore plus vulnérable, plus précaire, plus en danger. Être juste, ce n'est pas une question de droit à appliquer. Ce n'est pas non plus une question de morale. C'est d'abord une question. Une question posée par une relation, par une situation, même inattendue, même choquante, même dans laquelle on a pu être lésé. Et cette question, c'est celle-ci. Comment ne pas nuire à l'autre ? Comment ne pas humilier l'autre ? Il en va ainsi de l'éthique, éthique de responsabilité, qui n'exonère jamais de la réflexion, qui considère la personne en premier, qui nécessite de se tenir présent, présente, au premier plan, sans se dissimuler derrière les paravents du bon droit, du texte de loi, de la religion ou du qu'en dira-t-on. Cette justice de Joseph, celle qui va permettre que Jésus vienne au monde avec un père pour veiller sur lui, pour participer à son éducation, cette justice de Joseph, ce n'est pas seulement c'est de ne pas seulement penser à lui, mais de se décentrer de lui-même en prenant en compte Marie. Et ce décentrement de soi, Jésus le signifiera également plus tard dans l'évangile de Matthieu, dans le discours sur la montagne. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Matthieu oppose la recherche du règne et de la justice au souci de la nourriture et du vêtement, de la survie de soi-même. Nous pouvons y ajouter le souci de la réputation, du qu'en dira-t-on, le souci de sa propre image devant les autres, toutes choses auxquelles les hommes et les femmes sont tentés de s'attacher, qu'ils sont tentés de rechercher au détriment des relations avec autrui. Au détriment de la justice telle que Matthieu, témoin du Christ, donne de la comprendre à travers la figure de Joseph, le père de Jésus. Car il est bien père, Joseph, un véritable parent qui donne l'exemple, qui enseigne, qui indique le sens de la justice, qui peut ainsi tenir lieu d'exemple, de référence, de repères. Matthieu, l'évangéliste, qui s'efforce plus que les autres d'inscrire explicitement son évangile dans le terreau des Écritures juives, commence son récit en posant un écart entre la loi et être juste. Être juste ne tient pas à l'application de la lettre de la loi dans un littéralisme mortifère en forme d'impasse, en forme de déni de réflexion et de responsabilité. Être juste se tient dans l'esprit de la loi, un esprit qu'il est possible de comprendre dans bien des textes des Écritures, déjà par exemple dans le livre d'Osée. C'est la compassion que je veux et non le sacrifice. Ou encore dans le livre du Deutéronome. Choisis la vie. Ou encore dans l'évangile de Matthieu, à travers ces paroles de Jésus, heureux les doux, les compatissants, heureux les humbles de cœur, les ouvriers de paix, heureux les affamés et les assoiffés de justice. Alors Joseph, choisis la vie de Marie et la vie de l'enfant qu'elle porte. Matthieu a bien compris, et le Joseph qu'il met en scène aussi, que ce qui est le plus important dans les Écritures hébraïques avec le monothéisme, c'est la justice, celle que les prophètes d'Israël ne cessent, à laquelle les prophètes d'Israël ne cessent d'appeler un peuple et ses dirigeants prompts à céder à la tentation de la tranquillité ou du pouvoir, comme à la peur ou au rapport de force. Et Jésus, après ses prophètes, ne dit pas autre chose. Matthieu en témoigne d'un bout à l'autre de son évangile. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Et la figure de Joseph indique le chemin, la volonté et la réflexion, vouloir ne pas humilier et chercher comment. Et puis aussi, se laisser inspirer. Un ange du Seigneur intervient dans un rêve. Il ne vient pas commander une prescription supplémentaire. Il ne vient pas proférer un avertissement dans le sens d'une menace. Le Dieu de l'Évangile n'est pas un tyran qui impose des prescriptions, et Joseph ne se prend pas lui-même pour un Dieu qui aurait pouvoir sur Marie. L'ange vient accompagner, éclairer la réflexion de Joseph, celle qui l'agite certainement même pendant ses nuits. L'ange vient l'encourager. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie. Non seulement de ne pas lui causer de tort, mais la justice vis-à-vis de Marie, souffle l'ange, c'est même de veiller sur elle, de veiller sur l'enfant et d'accompagner cet enfant. N'aie pas peur de ce que les gens diront, n'aie pas peur de cet enfant qui vient. Un ange qui vient dans le sommeil, c'est une manière de dire la conscience qui s'élargit, l'âme qui frémit, le cœur qui palpite, la réflexion qui se clarifie. C'est une manière de dire une ouverture de l'être à une parole qui ne vient pas de soi, mais qui fait lumière et vérité pour soi. Et cela peut survenir dans la prière, dans la méditation, au détour d'une lecture ou dans l'écho d'une parole. Dans le temps que l'on prend quand il y a une décision, un choix, un discernement, quand vient l'heure d'une responsabilité, puisqu'il ne s'agit pas de s'en remettre aux textes de loi, aux usages, aux coutumes, aux traditions, et puis être quitte des conséquences. Il n'y a pas de réponse toute faite aux questions que posent nos situations. Rien n'est écrit d'avance de ce que nous voulons faire, de ce que nous pouvons faire de juste. L'homme ou la femme juste se tient entre humilité de cœur et responsabilité, entre liberté et réflexion, entre questionnement et discernement, pour ne pas déshonorer, pour ne pas humilier, pour ne pas déshumaniser, car cela n'est juste vis-à-vis de personne, cela n'est juste de la part de personne. Une visite d'ange, ouverture au souffle de Dieu, disponibilité à l'écoute de la parole de vie, c'est de la liberté et du courage pour prendre une décision et créer du nouveau et l'assumer, même si ce n'est pas conforme à la loi, ni à la tradition, ni à la culture, ni à la religion, ni à l'intérêt personnel. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, déjà en germe dans le corps de Marie, peut venir au monde, accueilli par Joseph, qui lui donnera le nom indiqué par l'ange, Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Un nom renforcé par la citation du prophète Ésaïe, la jeune fille sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Vous remarquerez que Matthieu ne se sert pas d'Ésaïe pour asséner. C'était écrit, c'était prévu depuis des siècles, ça s'est bien passé ainsi et il n'y a plus rien à dire. Matthieu puise dans le livre d'Ésaïe de quoi penser et exprimer la fidélité de Dieu qui ne renonce jamais à créer des possibles et à appeler à la vie les humains encombrés, les humains empêchés. Et aujourd'hui, Noël est un nom donné à cette fidélité de Dieu envers nous. Dieu avec nous et Dieu qui sauve. C'est bien ce dont témoignera Jésus-Christ, ce qu'il mettra en œuvre de justice et de vie. Car le salut, ce n'est pas de sauver de l'oppresseur de l'époque, l'Empire romain, mais de sauver des péchés. C'est-à-dire que l'humain n'est plus enfermé dans une condition de pécheur coupable, méprisable et condamnable, mais il est libéré du jugement qui lui ferait rendre compte de ses actes et paroles, de son histoire, et cela pour entrer dans une vie nouvelle, sous un autre horizon, qui est l'amour éternel. Et cela est la justice de Dieu envers nous, envers tous et toutes, une justice qui rend juste au-delà de la foi et de la manière d'être de chacun. Une justice qui rend juste par la grâce de Dieu, seulement par elle. Et c'est ce qui se produit déjà pour Joseph, sauvé de l'injustice vis-à-vis de Marie, pour devenir père. Joseph naît comme père, depuis son sens de la justice, depuis l'ange venu visiter son rêve, depuis la grâce de Dieu qui vient le rencontrer dans l'enfant porté par Marie. Et cette justice de grâce, c'est ce qui se produit dans nos existences. Lorsque nous suivons notre chemin à la lumière de la grâce, en cherchant la justice, et que cela nous fait devenir qui nous ne sommes pas encore, mais que nous sommes appelés à être. Oui, Noël est une histoire de naissance, mais pas seulement la naissance de Jésus-Christ. Noël ne ramène pas notre regard vers un événement d'il y a plus de 2000 ans. Noël célèbre l'avenir devant Dieu, l'avenir de Dieu avec nous. Amen.
Thank you.
Je vous invite à vous lever. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes à vivre et à vivre les uns avec les autres, avec tous les êtres qui respirent et tous ensemble avec toi. Nous te bénissons pour Jésus le Christ, notre Sauveur et notre frère. Il a dit et il a montré que l'amour, ton amour, l'amour envers toi, l'amour des autres est le plus important de la vie, le fondement des existences et du monde. Car c'est l'amour qui fait vivre et qui libère, c'est l'amour qui est justice. Mais parce que ce message dérangeait, il a été arrêté, jugé, condamné, frappé, il a été crucifié comme un malfaiteur. Il a été mis au tombeau. Notre Dieu, nous te bénissons parce que nous confessons qu'il s'est levé d'entre les morts. Nous te bénissons pour les disciples qui l'ont confessé avant nous, ceux qui le confessent avec nous. Et parce qu'en toi, la vie est plus forte que la mort et l'espérance toujours possible. Notre Dieu, nous te bénissons pour la bonne nouvelle qu'il est à nouveau pour nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous te louons et nous chantons au cantique 183, auquel éclat sur nos matins.
C'est pour nous rendre plus humains et plus fraternels que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe, après le repas, en disant : Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Nous venons à toi, Dieu de Jésus-Christ, Dieu de générosité. Nous nous ouvrons à toi, Saint-Esprit du Dieu de bonté. Qu'avec ce pain et ce vin, ce soit ta vie qui monte en nous. Nourris-nous de la vérité de ton espérance et unis-nous dans ta paix. Fais monter en nous le souffle du renouveau. Que rien ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni le péché. Fais au contraire de nous des hommes et des femmes vivant de ton évangile, réunis dans la foi et dans la construction d'un monde meilleur.
Dans la prière, nous sommes unis avec celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, avec celles et ceux pour qui la foi ressemble à une longue nuit à traverser, avec celles et ceux qui ont perdu le goût de chercher et de lutter. Nous sommes unis avec celles et ceux qui sont handicapés dans leur corps ou dans leur esprit, avec celles et ceux qui sont enfermés dans leur souffrance, avec celles et ceux qui sont réduits dans leur solitude, avec celles et ceux qui ont tant besoin d'être consolés. Nous voici, notre Dieu, unis avec celles et ceux que d'autres ont écartés de ta table, avec celles et ceux qui vivent dans la faim et la misère, avec celles et ceux dont la dignité n'est pas respectée, avec celles et ceux qui ont oublié les couleurs de la paix. Tu ouvres notre cœur et notre esprit aux hommes, aux femmes, aux enfants sans refuge dans les ruines de Gaza ou qui y sont retenus en otage. Les hommes, les femmes, les enfants violentés au Soudan, perdus en Syrie, pourchassés en Birmanie, errant loin de leur pays, sur terre ou en mer. Éveille-nous à la solidarité, au combat pour la justice, à la quête de la paix. Nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus le Christ nous a données pour accompagner chacun de nos jours et que nous pouvons dire à voix haute ou dans le secret de notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Tout est prêt. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais où le Christ nous donne nourriture. Voici la table par nous dressée, mais que lui-même préside. Voici la joie par nous désirée, mais que lui-même nous donne. Voici le pain dont nous avons besoin, mais que lui-même distribue. Venez, tout est prêt.
Nous formerons un cercle autour du temple. Je vous invite à tous prendre place dans ce cercle, même si vous ne souhaitez pas prendre le pain et le vin. Ce cercle est signe de l'humanité réconciliée. Il est signe de notre égale dignité à chacun et à chacune. Alors, vous pouvez peut-être vous rejoindre là-bas, au fond du temple. Voilà, ça fera plus de place pour chacun, pour chacune. On pourra se mettre tous les uns à côté des autres. Voilà, et François, derrière vous, il y a Monsieur Weber. On va lui laisser une place aussi. Puisque nous voici rassemblés à la même table, je vous invite à saluer vos voisins, à prendre connaissance de leurs noms. Ils ne sont pas anonymes, ils sont vos frères et sœurs. Il y a dans le plateau que portera Isabelle du jus de raisin pour celles et ceux qui ne souhaitent pas prendre de vin qui sera lui dans les autres plateaux. Donc c'est Isabelle, si vous ne souhaitez pas prendre de vin. Et puis, merci d'attendre que tous aient reçu sa part, chacun ait reçu sa part avant de manger et de boire.
Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ donné pour nous. Le Christ vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. C'est la communion au sang du Christ versé pour nous. Par l'alliance qu'il renouvelle sans cesse, Jésus-Christ fait couler en nous sa vie comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour.
Notre Dieu, maintenant tourne nos regards vers les êtres sans parole, vers ceux qui sont sans voix. Par le pain et le vin partagés, inscris au plus profond de nous le respect pour tous les êtres vivants et garde vif en nous le sentiment de la dignité de tous. Pour celles et ceux qui sont dans l'obscurité, donne-nous d'ouvrir une fenêtre sur le jour, comme une trouée d'amour. Mets dans nos cœurs et dans nos bouches la parole qui relève et qui sauve, les mots risqués qui ouvrent à un commencement nouveau et signent le temps de Noël. Amen.
Je vous invite à regagner vos places dans la joie du Christ vivant. Et restez debout car nous allons chanter. Nous allons chanter le cantique 175. Ô Jésus qui vint parmi nous. Prenez place. Un tout petit peu d'annonce en ce dimanche de Noël, juste pour rappeler que demain, le jeudi 26 à 12h30, ici dans le temple, ce sera le temps de la pause spirituelle, de 12h30 à 13h30, un temps de silence, de méditation, de partage biblique et de prière. Et puis dimanche prochain, le culte à 10h30 nous retrouvera. Enfin, si vous êtes là, si vous souhaitez y venir, nous nous y retrouverons. Dimanche prochain, il y aura, comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Et je vous rappelle que la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment est affichée en deux exemplaires dans l'entrée du temple. Mais c'est pas compliqué, en ce moment ce sont surtout les produits d'entretien qui sont demandés, mais pas en gros contenant, plutôt des choses réduites. Donc merci pour votre solidarité avec cette épicerie et surtout avec les personnes qui s'y rendent. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Alors, s'il n'y en a pas, bien voici le moment de l'offrande qui est aussi à la fois une forme de gratitude, de générosité, de confiance, de foi, de louange, c'est-à-dire un geste qui nous rassemble en un seul élan de solidarité et de joie, solidarité afin que le foyer de l'âme puisse accomplir ses missions. Nous arrivons au terme de cette célébration de Noël. Je vous invite à vous lever pour entendre les paroles d'exhortation et puis nous chanterons le dernier cantique avant la bénédiction. Dites-leur de souffle le vent. Dites-leur cette voix du dedans, plus tenace que la soif, le fardeau et la haine. Dites-leur l'appel de Dieu, ce murmure de tendresse dans la vallée des larmes. Dites-leur d'où souffle le vent et comment l'espérance nous est née. Cette voix du dedans, l'appel du large, paix sur la terre déchirée, gloire à Dieu pour l'éternité. Et nous chantons au cantique 173, nos cœurs te chantent.
Thank you.
Amis, frères et sœurs, que le Dieu de la promesse fasse advenir en nous la plus belle des naissances et nous transforme en fils et filles de son amour. Qu'il nous garde dans sa lumière et dans sa paix. Amen.